Gardien de la BD, épisode 179. Au sommaire cette semaine, les tuniques bleues, Claw, la Venin, 9603 km, connexion et autres joyeusetés. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission des Gardiens de la BD, pas en direct sur PFM, enfin pas en direct du studio vu qu'on n'y a pas accès pendant un certain temps pour le moment. On va quand même essayer de continuer de faire des émissions. Donc avec moi ce soir, il y a Franck.
Bonsoir tout le monde.
Et il y a Thibaut.
Salut mes marins d'eau douce.
Messieurs, comment allez-vous?
Plutôt mal en cette période de confinement.
Voilà, mieux que nos amis libraires, on va dire, puisqu'on va parler quelques temps d'abord sur la situation qui a amené à la fermeture des librairies, puis à l'interdiction totale de vente de biens culturels en France. Si on m'avait dit qu'on arriverait chez Orwell via Macron, j'y aurais pas cru, mais ça y est, on y est. Donc, qui veut rappeler rapidement tout le bazar?
C'est le 28 octobre dernier, on a notre président qui annonce le confinement. Le lendemain, les librairies sont considérées comme non essentielles. Malheureusement, dans le même temps, une partie des libraires, qu'ils soient spécialisés ou non, en tout cas les libraires indépendants, se rendent compte que sous couvert de la diversité des produits qui vendent, les grandes surfaces comme Leclerc, Auchan, la Fnac, etc., ont le droit de rester ouvertes. À partir de là, évidemment les librairies indépendantes dénoncent à juste titre une concurrence déloyale.
Moi je suis pas trop d'accord avec ça, parce que pendant le premier confinement, tu pouvais encore acheter des bouquins en grande surface. La situation de la FNAC est venue se greffer là-dessus là pour le deuxième confinement, et le vrai problème c'est que les libraires peuvent s'apprendre qu'à eux-mêmes, puisque en mars, dès les premiers jours du confinement, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait proposé de passer les libraires en commerce essentiel, et les syndicats de libraires avaient refusé. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas inscrits, parce qu'ils n'ont pas voulu l'être à l'époque, en se disant peut-être que ça allait durer que 15 jours et ce serait rattrapable à ce moment-là. Et bon, ça a duré un mois et demi, et là les enjeux ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a toutes les sorties de fin d'année qui arrivent. Pour le moment, sur ce qu'on sait, les sorties de livres continuent à arriver en librairie, et donc ça va créer un embouteillage de cartons chez les libraires qui ne pourra pas être écoulé tout de suite. Franck.
Moi, je suis très partagé sur ce sujet-là, parce que, en fait, je ne connaissais pas ce que tu viens de raconter à propos du premier confinement et de la décision des syndicats de libraires. Moi, je trouvais surtout le raisonnement du gouvernement totalement con sur ce deuxième confinement. Cette rebascule du type, on a le droit d'avoir des bouquins chez l'un, mais pas chez l'autre. Donc, à partir du moment où on se plaint, on interdit à tout le monde. Je trouvais ça très bête. Après, c'est sûr que si on prend du recul avec le problème sanitaire, j'entends bien que en premier lieu, il faut d'abord sauver des gens, sauver l'hôpital. Mais en fait, c'est tout le non-sens des raisonnements actuels du gouvernement qui me perturbe dans le cas des libraires.
Après, c'est pas que dans le cas des libraires, parce que toutes les réformes qui sont faites depuis les gouvernements depuis une vingtaine d'années vont toujours dans le sens du pire au lieu d'aller dans le sens du haut.
Pour la culture, oui.
Ouais, mais pas que pour la culture, pour les retraites.
On fait une BD, on fait une émission sur la BD. Je reste sur ce sujet-là.
Ouais. Après, c'est pas. C'est les habitudes pour s'aligner sur le pire plutôt que sur le mieux-disant. Thibaut.
Moi, autour de tout ça, je trouve que c'est une décision complètement catastrophique. Évidemment, les grands sites en ligne vont une fois de plus sortir vainqueurs de ce genre de décision. Et ça, c'est déjà en soi dramatique. L'autre chose que je trouve, contre laquelle je suis vraiment furieux, c'est qu'après l'assassinat de Samuel Paty, l'État a clamé l'importance de l'apprentissage et de l'ouverture aux autres.
C'est ça.
La rentrée des classes s'est faite avec la lecture de la lettre de Jaurès, dans laquelle, en gros, on dit « si vous ne voulez pas une civilisation de machines à épeler, bah, éduquons et cultivons vos enfants, nos enfants. » Aujourd'hui, avec ce genre de décision, non seulement bah, nos enfants ne peuvent plus se cultiver, mais leurs travailleurs de parents, bien que cultivés, sont contraints à devenir des machines qu'on allume le matin, qu'on fait tourner la journée et puis qu'on éteint le soir. Et effectivement, dans cet objectif, le livre et plus largement la culture, bah, c'est pas essentiel. Et je trouve que c'est malgré l'histoire sur les syndicats que tu nous as racontée et qui justifie une partie des décisions, hein, c'est dramatique pour l'instant, c'est dramatique pour le futur. Et j'ai toujours peur que quand on enfonce ce genre de porte, ça se reproduise à d'autres périodes.
Après, il y a peut-être eu un calcul du gouvernement à d'abord interdire seulement les petites librairies, puisque vous en fréquentez comme moi, le public, on va dire, est peu métissé, plutôt typé électorat de la majorité actuelle, et ils ont dit ça va passer crème, c'est des moutons, ils nous suivront.
Peut-être.
Sauf que là, la grogne vient pas des. On a vu beaucoup de prises de position d'auteurs, justement, alors que c'est eux qui sont toujours déconsidérés, enfin mal considérés au niveau de leur rémunération. Les libraires les ont jamais vraiment clairement soutenus. Donc, c'est les auteurs qui défendent ça. Et les lecteurs, j'en ai pas entendu beaucoup prendre la parole sur la question de l'ouverture des librairies. Sachant que malgré tout, il y a moyen de faire des click and collect.
Ouais, tout à fait.
On verra.
Mais la notion d'obscurantisme et de culture qu'a mis en avant Thibault, pour moi, me semble essentielle. Et c'est pas que le cas de Paty, c'est aussi l'attentat. Enfin, il y a eu deux autres attentats dans la foulée. T'as Évidemment. L'impression que ça glisse. La réaction du gouvernement turc en fait partie aussi. Et pour moi, la première réponse, c'est l'accès à la culture.
Oui, bah, enfin, même quelqu'un comme Rachida Dati a livré un beau plaidoyer pour Thibaut, arrête de tirer sur ta cigarette électronique.
Non, c'est c'est ma gorge synthétique qui fait.
Ouais, ouais, donc même Dati a dit que pour lutter contre le séparatisme et compagnie, les libraires avaient un rôle important, alors que c'est pas elle qu'on attend particulièrement sur ce créneau-là. Non. Résultat, maintenant on ne peut plus rien acheter d'autre, puisque tout le monde s'y est mis, du coup, à manger, pour simplifier, et des produits de première nécessité.
On a jusqu'à demain, non ? C'est pas demain que ça commence ?
Alors, on est diffusé la semaine prochaine.
C'était la semaine dernière, en fait.
Ouais, c'est voilà. Ça, oui, c'est... apparemment, le décret d'application, si je me rappelle bien, est sorti le 3 novembre, et donc il y aurait une tolérance jusqu'au 3 au soir.
Sachant que de grandes surfaces ont déjà commencé à tout barricader.
Ouais.
Quoi qu'il arrive, même si on ne fait pas de pub pour l'un ou l'autre, n'hésitez pas à user du click and collect, parce que quitte à se faire préparer sa commande, il vaut mieux quand même aller la chercher chez son petit commerçant du coin et son libraire en l'occurrence, que d'avoir des colis tout moches, même s'ils ont un sourire dessus.
Oui, mais un sourire, ça compte quand même un peu, non ?
Ouais, mais il vaut mieux. Là, en l'occurrence, il vaut même mieux les avoir derrière les masques que sur un carton.
Ouais, mais enfin, tu vois, après, à ce moment-là, je veux bien, Amazon, c'est le grand méchant, mais il y a d'autres sites en ligne. À ce moment-là, tu coupes Netflix, OCS et compagnie, parce que ça fait une concurrence déloyale au cinéma.
Bah, tu vois pas les mêmes contenus, mais.
Non, c'est vrai, c'est beaucoup de merde là-dessus.
Ni de la même manière. Là, tu commandes un bien culturel. Issu d'une industrie culturelle que tu vas consommer exactement de la même manière, c'est-à-dire chez toi, voilà, sauf que tu te seras pas déplacé. Mais bon, en tout cas, d'un point de vue général, là, vous parliez de la semaine dernière des rayons qui ont été fermés, ceux de la culture sont déjà filmés, hein,
ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont déjà inaccessibles.
Oui, depuis samedi matin, je crois. Enfin, ouais. Donc samedi 31.
Samedi en 8.
Voilà.
Enfin, au moins 8.
C'est compliqué.
C'est un nouveau concept.
Ouais, c'est. Voilà. Donc, Ouais, on va y arriver, hein. C'est pas gênant. Après, on va faire des vraies chroniques et on sera plus là-dessus. De toute façon, malgré tout, on ne sait toujours pas s'il y a encore grand-chose qui va sortir dans tous les cas. Donc la question des réouvertures éventuelles vers le 15 novembre ne sera peut-être pas tranchée, vu que c'est pas sûr non plus que les chiffres soient aussi bons que le gouvernement l'espérait en lançant son second confinement light.
Maintenant, à ça, on peut peut-être quand même préciser une chose qui est que, a priori, la vente de BD dans notre cas et de livres en général a plutôt explosé après la suite du premier confinement et que, au global, sur ce début d'année, ils sont sur des chiffres au moins équivalents aux années précédentes. Donc, curieusement, le secteur a bien vécu ce premier confinement après coup.
Ouais,
Moi, c'est des échos que j'en ai eus.
sachant qu'à la sortie du confinement, tu as eu quand même pas mal de gros blockbusters qui étaient là pour attirer les
Les
clients.
clients.
Ce qui sera le cas aussi de toute façon là, parce que même s'il n'y a rien qui sort, si on rouvre courant décembre, les gros 13, Murena et compagnie seront là avant Noël, enfin, même si on ne pourra pas certainement pas fêter Noël cette année, mais ça c'est encore un autre problème. Thibaut, quelque chose à rajouter là-dessus ou pas?
Rien à ajouter, mon capitaine.
Franck?
C'est tout bon.
Eh ben, on va faire la première pause musicale,
Cool.
les Carpenters, Close to You.
Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to
Deuxième partie des gardiens de la BD, toujours loin du studio, mais
magnifique fondue de avec... confinement.
Ouais, bien sûr. Bah, non, j'enverrai le fichier d'abord. Toujours avec Thibaut et Franck, on va commencer à parler des albums. Donc moi, je vais vous parler du 65e tome des Tuniques Bleues qui est sorti la semaine dernière. Comme vous êtes des lecteurs attentifs de cette série, vous me direz, mais où est passé le tome 64 ? Eh bien, il sortira l'année prochaine.
Mais où est passé le tome 64 ?
Eh bien, il sortira l'année prochaine. Ce qui s'est passé, c'est que... Alors, donc, Les Tuniques Bleues, c'est une série humoristico-dramatique sur deux soldats de l'armée américaine pendant la guerre de sécession, le sergent Chesterfield et le caporal Blutch. Il y en a un qui est plutôt content d'être là et l'autre qui est tir au flanc, antimilitariste et tout ce que vous voulez. Et donc, c'est une vieille série, c'était créé en 68 quand les éditions Dupuis ont perdu Lucky Luke, qui était parti chez Dargo. C'était créé par Covin et Salverius jusqu'à son décès en 72. Et c'est Lambille qui a repris le dessin depuis. Et donc, Covin a annoncé son arrêt de la série en tant que scénariste l'an passé, et Dupuis a certainement dû faire passer quelques tests à ses meilleurs scénaristes. On sait qu'il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui avait postulé, il s'appelle Sty. Il a pété retenu, puisque c'est Becca qui a été retenu, donc c'est un duo. Donc ils ont fait pas mal de BD jeunesse. Leur truc le plus connu, c'est peut-être Studio Danse. Et en moins jeunesse, c'est eux qui avaient lancé alors c'était un one shot, mais c'est devenu une série sur la jeunesse de Champignac, le personnage des aventures de Spirou. Donc, eux s'y sont mis, ils ont contacté Munuera pour faire le storyboard et co-scénariser avec eux, et Munuera s'est pris au jeu, et donc c'est lui qui dessine l'album, pendant que Covin a un an de plus pour faire le tome, non, l'ambiance.
64.
Pardon. Ouais, et c'est Lambille qui a un an de plus pour terminer le dernier scénario de Covin. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage de numérotation. Le titre, c'est L'envoyé spécial. Ça commence à Londres en 1861. On va suivre William Russell, qui est journaliste au Times et qui est envoyé illico presto aux États-Unis couvrir la guerre de sécession parce qu'il a couvert une grève dans une usine et il a pris parti très mollement pour les ouvriers, plutôt pour les grands patrons. Et donc, une fois qu'il arrive là-bas, comme souvent dans Les Tuniques Bleues, il sera escorté par les deux personnages récurrents de la série, donc Chesterfield et Blutch. Ça, c'est le résumé.
Le point de départ.
Ouais, d'accord. C'est le point de départ. C'est très classique au niveau du point de départ. Plus surprenant, au niveau de l'album en lui-même, ça s'ouvre par une interview des repreneurs avec des croquis de Munuera et puis donc interview des deux scénaristes et de Munuera.
En démarrage d'album.
En démarrage d'album, alors que d'habitude, on a ça plutôt en fin d'album et t'as l'impression que c'est un avertissement. Attention, il y a du changement.
Ouais, vous n'allez pas lire quelque chose de traditionnel, surtout pour les aficionados.
Con, ouais.
Les aficionados.
Ouais, enfin après, dès la couve, il voit bien qu'il y a un dessin, un problème. Enfin, il y a un problème.
Et puis, un lecteur habitué, il sait exactement quoi sort quand, notamment ce tome avec les remplaçants.
Voilà. Et donc, alors là, je vais commencer par la vraie force pour moi de l'album, c'est le dessin de Munuera. Il apporte tout ce qu'il a fait dans les autres trucs, notamment dans les Campbell, un découpage plus moderne, plus cinématographique. Il se permet même une double page sur un champ de bataille. Alors que, c'est jamais vu dans les Tuniques Bleues, qui est vraiment de la BD classique. C'est beaucoup plus dynamique et au contraire de ce qui se fait notamment sur Blake et Mortimer, il n'y a pas de pastiche de Lambille, c'est une vraie BD de Munuera au niveau du dessin. Au niveau c'est vraiment la vraie force du truc. Au niveau du scénar, comme chez Covin, on a un point de départ historique, puisque le William Russell qu'on va suivre à travers l'album est considéré comme le premier correspondant de guerre à avoir couvert un conflit en direct. Pardon. Après, à la différence de Covin, qui lui partait d'un fait historique, qui s'y tenait et les tirait sur 48 pages, des fois en meublant comme il pouvait, les deux scénaristes Becca ont choisi de développer trois intrigues. Donc, il y a l'arc du journaliste qui va découvrir les États-Unis, enfin la guerre. On va croiser aussi une jeune femme qui a fui sa famille pour ouvrir un orphelinat, donc qui s'appelle Daisy. C'est le deuxième arc. Et le troisième arc va montrer une espèce d'entente cordiale sur au nom de l'intérêt commun entre les généraux nordistes et sudistes. Ici, clairement, c'est comment se débarrasser du journaliste qui emmerde les deux camps, en fin de compte.
D'accord. Ouais. Oui, heureusement que tu cites ce troisième point, parce que je commençais à me demander si c'était encore humoristique comme série.
Oui, ça l'est. Tu n'as jamais trop rigolé dans les Tuniques bleues.
Non, mais tu souris.
Oui, tu souris. Si, il y a des choses. Au niveau de l'humour, par exemple, tu as deux personnages qui reviennent, qui sont obsédés par l'idée de faire sauter des ponts, et c'est Lambil et Covin qui sont là en caméo. S'ils ont été au courant qu'ils sont là-dedans, mais donc ils sont là, littéralement. Et le problème du scénar, c'est si Covin traînait trop en route et ce truc, les backups, ils vont trop rapidement sur les trois aspects. Fin de compte, il y en a un et demi qui est traité.
Quand tu fais le déroulé, c'est quand même vachement dense. Ça paraît vachement dense.
Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il laisse de côté typiquement l'arc sur les généraux aurait pu être intéressant, mais ça prend une scène. Ouais, peut-être deux, allez. L'arc de Daisy, tu la vois au début de l'album et à la fin de l'album, et son truc est fini, alors qu'il y aurait moyen, en prenant son temps, de plus de développer ces deux aspects-là. Après, c'est un... Oui, Franck.
C'est curieux parce que, ouais, un peu comme Thibaut, tu donnes l'impression que c'est un truc qui est très dense. Et là, avec les deux informations que tu nous livres, ça, finalement, il n'y a que l'arc du journaliste qui est vraiment creusé dans le scénario. Ou ils ont fait trop dense ou ils ont fait léger.
Ben, à vouloir faire trop dense, ils ont fait léger. Pour moi, après, ça se tient.
Trop de sujets, fait qu'ils n'ont pas assez creusé les autres.
Ouais, voilà, ils ont peut-être pas su choisir le sujet qu'ils voulaient vraiment garder. Peut-être qu'ils ont été prisonniers aussi de la formule de la série qui fait qu'il faut garder un point de vue historique comme point de départ, donc là avec William Russell.
Et est-ce que c'est un tort finalement que ça soit trop dense, parce que quelque part là où tu critiques les anciens tomes qui étaient légers et peut-être trop légers, là pour une reprise, il n'y a peut-être pas intérêt à tomber dans le même travers.
Ouais, non, mais il y a peut-être une volonté de moderniser, enfin, de faire quelque chose de plus rapide pour un lectorat plus jeune. Je sais pas. Après, moi, ça m'a plu. C'est pas la BD de l'année. Ça se lit très bien, surtout pour le dessin de Munuera. Par contre, je parlais de l'interview des auteurs en début d'album. Dupuis a eu la mauvaise idée de mettre en fin d'album les deux premières pages du tome 64 qui sortira dans un an. Et là, c'est le drame, j'ai envie de dire. Parce que le dessin de Lambil à côté de celui de Munuera semble...
Endormi
Non, même pas hésitant. C'est-à-dire que tu n'as même plus l'impression que c'est le Lambil de la grande époque. Enfin, après, il a son âge aussi maintenant.
C'est ça.
Mais tu as l'air d'un mauvais pastiche, en fin de compte.
Aïe, aïe.
Est-ce qu'il a été évoqué une passation de pouvoir un peu plus franche que
non,
que ça,
pour le moment, ils font qu'un album. Ils aimeraient continuer d'après ce qui ressort dans l'album, mais il n'y a rien de signé officiellement.
D'accord.
J'ai une dernière question qui est, est-ce que c'est pas grave si Blotch a la tête de Titeuf, en un peu plus âgé?
Non, parce que c'est plutôt Titeuf qui aurait la tête de Blotch en plus jeune. Ah oui, et puis alors pour les amoureux de pinaillage, Munuera, que Franck aime beaucoup, a choisi de, pour prendre bien montrer le camp choisi, a choisi de mettre le journaliste en couverture sur une mule, emblème du Parti démocrate, rapport avec les élections américaines en ce moment. Sauf que la prochaine fois, il ferait bien de lire un peu son histoire américaine, puisque si la mule est bien le symbole du Parti démocrate, le Parti démocrate était esclavagiste pendant la guerre de sécession. C'est les républicains qui étaient anti-esclavagistes. Voilà, c'était le mot de la fin.
On fait tous des erreurs.
Ouais, mais enfin, voilà.
Ah, qui ont les plus grandes conséquences.
Ouais. Je pense que la réponse est assez facile. C'est que c'était difficile de faire monter un éléphant.
Ouais, voilà. Si tu veux. Ce sera le
qui
mot
était
de la fin.
L'autre animal.
Ouais, donc ce sera le mot de la fin. Je vous parlais de l'envoyé spécial de Munuera au dessin et de Becca et Munuera au scénario. C'est sorti chez Dupuis. Et maintenant,
merci.
C'est Thibaut qui va nous parler de Connexion.
De Pierre Janot.
Voilà.
Connexion, c'est le titre de l'album.
Oui.
Le titre de l'album.
Oui, on peut parler de connexion Internet et configurer un proxy si tu veux, mais c'est pas vraiment le sujet de l'émission.
Non, et puis on va pas faire les malins là-dessus parce qu'on va déjà essayer de mettre en ligne cette émission, ce serait un grand exploit.
Ah non, on peut la mettre en ligne, mais je suis pas sûr si elle sera audible.
Donc, connexion de Pierre Janot, je vous parle du tome 1 qui s'appelle Le Faux Accord et c'est édité chez Tanibis. Alors Pierre Janot, c'est un mec qui a créé les éditions Polystyrène, mais qui est surtout issu du milieu fanzine. Et il propose quelque chose de vraiment original. Alors c'est une histoire croisée de quatre potes qui s'appellent Ravière, Marc, Asia et Judith. Ils sont tous trentenaires et clairement ils se cherchent entre leur passé rock'n'roll, road trip et le présent, même pas leur futur, mais ne serait-ce que leur présent dans lequel ils se sentent pas du tout à l'aise. Marc, par exemple, il est tiraillé entre son boulot de seconde cuisine. Un jour, son patron, il a un petit contrat d'une vingtaine d'heures. Son patron lui dit « Écoute, je veux te passer à temps plein et faire de toi mon second ». Et Marc, il est tiraillé entre ça, cette opportunité de CDI, et le fait de refaire de la musique. Donc une vie beaucoup moins stable. Judith, elle revient de 17 mois de road trip, et puis à peine rentrée, l'envie de repartir se fait déjà sentir. Elle se sent qu'elle est plus trop connectée avec la vie de ses potes d'enfance. Donc on suit ces histoires croisées, il n'y a pas beaucoup plus à en raconter là-dessus, parce que c'est vraiment à découvrir. Et Pierre Janot, il propose quelque chose d'intéressant, parce que l'histoire racontée comme ça, on en a tous déjà vu ou lu, mais les choix graphiques qu'il fait sont vraiment hors normes. Par exemple, les personnages apparaissent dans une zone assez lumineuse et colorée, qui est complètement entourée de noir, et au fur et à mesure où ils vont se déplacer, ils vont quelque part allumer chaque pièce qui les entoure ou leur environnement, un peu comme dans certains jeux vidéo. Ça, c'est...
Tu découvres la carte au fur et à mesure.
Ouais, et donc l'environnement du ou des personnages. Ça, c'est vraiment très très intéressant.
On est sur une perspective axonométrique ou cavalière, c'est-à-dire que...
Bah, pour rester comme un jeu vidéo, c'est 3D isométrique.
Exactement.
C'est ça. Donc ça a un rendu très très géométrique de ce fait-là, y compris par les choix qu'il fait dans l'architecture des bâtiments, l'urbanisme, etc. de son décor. Et il va venir animer ce paysage, ce décor, par des bulles en forme d'hexagone, enfin de comment, pas d'hexagone, de comme dans une ruche d'abeille là.
En forme de ruche d'abeille.
Alvéole, voilà, dans une alvéole.
Hexagone.
Ces bulles vont s'emboîter les unes aux autres et raconter soit des flashbacks, soit les dialogues au présent des personnages. Donc c'est un scénario qui est, je trouve, quand même assez attendu, mais c'est son traitement qui est vraiment très esthétique, en plus d'être efficace. En sous-sujet de cette histoire de bande de potes, Pierre Janot, il parle beaucoup de la scène rock underground, mais vraiment beaucoup, avec énormément de références. Et vu les références, à n'en pas douter, il a dû baigner dedans à un moment ou à un autre, peut-être encore maintenant, parce que c'est vraiment très fourni et ça prend une place importante dans son récit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Que ça nous fait, en tout cas, ça m'a fait renouer avec une certaine manière de lire de la BD, parce que c'est quelqu'un aussi qui met beaucoup de petits indices dans ses décors, des étiquettes sur des cartons, des photos qui traînent, des noms sur des
sonnettes. Très recherché.
C'est assez recherché.
C'est des indices pour le reste de l'intrigue, ou c'est juste tu t'amuses à chercher et t'es content?
Ouais, non, ça peut t'éclairer.
Un peu des deux.
Un peu des deux, c'est pas prépondérant dans le récit, mais moi j'aime bien des auteurs qui poussent le détail à ce niveau-là, même si ça n'a pas une importance capitale. Ça, à mon sens, ça prouve l'engagement que l'auteur met dans sa réalisation.
Comme quoi, tout est bien pensé, ouais, c'est ça.
Ouais, j'aime vraiment beaucoup ça, et à la fois, il m'arrive d'aimer beaucoup des lectures très fluides sur lesquelles on s'attarde pas forcément sur le dessin parce que tout s'enchaîne très vite. Ça met un certain rythme. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'arrêter, à m'en rendre compte quelques pages après le début en me disant, tiens, c'est marrant, ce truc-là, j'ai eu l'impression de le voir. À un moment, il y a un personnage qui cherche un titre de bouquin dont il se rappelle plus. On se met à regarder dans les rayonnages de bibliothèque ou les objets qui traînent dans la pièce pour voir si on ne retrouve pas le titre du bouquin. Voilà, c'est un jeu qui s'installe et qui est plutôt pas mal. Donc, je ne saurais trop conseiller Connexion de Pierre Janeau, qui est sorti aux éditions Tanibis. C'est en deux tomes. Et le premier s'appelle Faux Accords. Toi,
Ça se...
Franck,
Ouais.
tu l'avais lu, hein, il me semble.
J'ai lu ce tome 1 et d'ailleurs, pour info, il avait d'abord sorti les. Il y a un chapitrage, hein, il y a un chapitre par personnage, six personnages. Ils avaient sorti en six tomes en auto-édition. Donc, c'est bien fait pour s'enchasser au fur et à mesure, pour recomposer le morceau du puzzle. Et comme toi, j'ai été mais totalement. Enfin, séduit alors que c'était pas gagné d'avance par ce traitement, par cette forme et cette déconstruction qui finalement se reconstruit à la fin. C'est très curieux. Ça fait penser aussi un peu à du Marc-Antoine Mathieu. Oui, c'est ça. Et toutes ces inventions créatives et le noir et blanc aident à y faire penser. Mais j'ai été très séduit par cet album. Très curieux de lire la suite.
Merci. Rien d'autre à ajouter, Thibault?
Non, six chapitres sur le premier tome. Enfin, non, je dis non, mais si, en fait. Six chapitres sur le premier, probablement six chapitres sur le deuxième. 12 chapitres, comme les 12 titres d'un bon CD de rock.
C'est pas impossible.
Ok, bon, on va enchaîner. Deuxième pause musicale, The Cure, Close to Me.
Thank you.
Troisième partie des Gardiens de la BD, et je vais vous parler du troisième tome de L'Avenin, sorti chez Rue de Sèvres, et c'est fait par Monsieur Astier. Alors, ça s'appelle Entrailles. L'Avenin, alors depuis deux tomes, on suit Émilie qui souhaite se venger de ce qui arrivait à sa mère quand elle était plus jeune, et à chaque tome, elle change de lieu. De lieu où elle se rend pour retrouver un des membres de la conspiration qu'elle croit responsable de la mère de ses parents. Dans ce tome 6...
De la mort
ça, ouais, de la de mère parents, de, oui. de... Ouais, et puis c'est de sa mère seulement. Le troisième volume commence tranquillement en Alabama, où elle... Émilie, qui est toujours accompagnée de la petite Claire, qu'elle trimballe depuis le tome précédent... Pardon. Elle débarque en Alabama, elle est confrontée à une intervention du Ku Klux Klan, et elle ne peut pas s'empêcher de défendre la future veuve, puisque le mari noir est en voie avancée de pendaison. Et,
parce qu'il y a une gradation dans la pendaison.
Il y a toujours un moment où c'est récupérable. Enfin, il y a toujours un moment où ça devient trop tard. Voilà. Et donc, c'est ce trio qu'on va suivre à travers l'album, donc Émilie, Claire et la veuve, qui vont se rendre à Oiltown dans l'Ohio. Nouvelle étape de la mission que l'Avenin s'est confiée, puisque le patron le maire officieux de la ville, Oiltown, est sa prochaine cible. Pardon. Alors, on change encore une fois complètement de décor, parce que là, on se retrouve, le premier, ça se passait, Thibaut, t'en rappelles-tu ? Je sais plus. Non, ça se passe au Far West classique. Après, ça se passait en ville avec une scène d'ouragan cataclysmique à la fin. Et là, on se retrouve dans une ville en voie d'industrialisation, puisqu'on est au début du XXe siècle. L'industrie pétrolière, pétrolières et les forages sont bien développés aux États-Unis depuis ce temps-là. Et donc elle vient en se faisant passer pour l'institutrice, mais elle ne peut pas s'empêcher, rapidement, en voyant les conditions de travail des ouvriers, de fédérer...
De s'en mêler.
De s'en mêler. D'abord, parce que les hommes n'osent plus trop créer un syndicat ou manifester, donc en passant par les femmes qu'elle croise à l'école, pour essayer de faire changer les choses. Donc naturellement...
D'accord.
Ça va pas se passer super bien. Ça va se croiser avec son histoire personnelle, puisque là on a plusieurs flashbacks qui reviennent sur son passé, et on en apprend un peu plus par rapport au tome précédent, sachant que là on est au milieu de la série puisque c'est prévu en 5 tomes. Moi je trouve que c'est une série agréable qui change de ton à chaque fois. Là on est sur un ton plus social, plus engagé, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, parce que ça va jamais trop exactement où on y va, parce que même si on se dit ouais, elle arrive dans une nouvelle ville, elle va trouver sa cible, elle va essayer de la voir, ce coup-ci ça se passe pas exactement comme ça, parce que à force de dessouder les membres d'un même groupe, elle finit par être attendue, sachant qu'elle est toujours aussi poursuivie par les Pinkerton, donc elle est de plus en plus cernée, et ça monte doucement. Je pense que le final sera assez intéressant dans deux albums, mais celui-là je recommande vraiment, parce que c'est rare des séries qui changent de ton, enfin je pense qui changent de ton à chaque tome en fin de compte, et là ce coup-ci oui, vas-y,
fais envie, tu fais envie. Par contre je comprends pas le lien avec Kaamelott, Arthur, Lancelot et...
Non, c'est pas le même Astier.
Ah bah tu l'as pas dit.
C'est Laurent, bon, celui-là. Oui, c'est Laurent. C'est Laurent Astier. Ouais.
Donc c'est pas... tu as été particulièrement séduit par son scénario en premier lieu.
Oui, parce que tu vois, au troisième tome, tu te dis ouais, ça va encore être la même chose et compagnie. Là, en plus de ça, il évite le spectaculaire. En fin de compte, t'as l'impression qu'à chaque nouveau tome, il essaye de faire quelque chose de différent au précédent. Le premier était vraiment un pur western. Le deuxième, du coup, ils allaient en ville, et la confrontation se jouait au moment d'une inondation cataclysmique. Et là, il part encore sur autre chose. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de varié. Le vrai avantage aussi, c'est que c'est annoncé en 5 tomes, et donc c'est pas une série qui va s'éterniser pendant 10-15 ans, quoi.
Il a son concept, il a son idée en tête, et il trace sa route.
Ouais, voilà, donc moi je le recommande
Très bien, bah,
parce
tu me
que
fais envie.
c'est assez intéressant.
C'est bien qu'il soit revenu de son engagement du deuxième tome, parce que moi j'avais le souvenir dans le tome 2 qu'il y avait certains rebondissements qu'on anticipait un peu trop, malgré toutes les qualités de cette série. Premier tome, il plantait bien le décor. Le deuxième, on avait, hormis le gros twist sur la fin de l'orage, là.
Ouais,
Mais
mais
sinon, le
des...
reste, c'était un petit peu prévisible. Là, apparemment, tu t'as l'air de dire que l'intrigue, elle se tient plutôt bien sur l'ensemble de l'album. C'est bien qu'il puisse rectifier le tir quelque part entre deux tomes.
C'est ça, et puis t'as le. Alors pour ceux qui avaient lu le tome précédent, le rôle de l'Indien est enfin expliqué.
Ah, bien.
Et pour le coup, ça redistribue. Parce que si, on s'est clairement expliqué, c'est la dernière scène de l'album. Ça redistribue toutes les cartes qui avaient été distribuées depuis les trois premiers tomes, en fin de compte.
Donc Emily, elle campe toujours bien son rôle de cowgirl.
C'est pas tant qu'une cowgirl qu'une femme assoiffée de vengeance.
Oui, surtout, ça c'est
C'est
vraiment,
voilà,
ouais.
sur tout ça.
C'est pas
Et,
incompatible.
ouais, mais t'es plus vraiment au Far West, en fin de compte. Ça aurait pu se passer ailleurs. Considérer l'Avenin comme une série western, c'est pas une bonne idée, je pense.
Alors, Far West et Western, pour moi, c'est deux choses
Ouais,
différentes,
c'est
hein.
deux. Ouais, déjà, oui. Mais, oui.
Parce que,
Oui.
en fait, le seul intérêt du western et du far west, c'est comme dans les trucs de les histoires de pirates, c'est cette fine frontière qu'il peut y avoir entre un ordre bien établi et la loi du plus fort.
Oui, sauf que là, c'est déjà fini, en 1900.
Ouais, mais pas dans le traitement, pas dans ce qu'elle en fait, puisque là, tu la caractérises vraiment comme une revancharde, comme une vengeresse même plutôt.
Oui,
Et qui donc fait fi des règles de la société pour mener à bien
sa vengeance, oui.
sa vengeance, ouais.
Enfin, ouais, donc, enfin, je vous conseille de le lire. Vous
Ah
verrez,
ouais,
tout se met en place à la lecture, parce que je ne veux pas trop spoiler. Voilà.
donc
Donc,
tu nous as
très bien.
parlé de.
L'Avenin, tome 3, donc le sous-titre c'est Entrailles de Laurent Assier, c'est sorti chez Rue de Sèvres.
Très bien.
Thibaut, c'est encore à toi. Tu vas nous parler de voile.
Et des
Et
histoires
de
du
vapeur?
Vendée Globe. Pas encore, Franck, même si ça te ferait énormément de bien. Histoire au pluriel du Vendée Globe, édité chez Dargaud, c'est scénarisé par Alexandre Chenet et dessiné par Renaud Garetta. Alexandre Chenet, c'est un peu la caution maritime de cet album. Renaud Garetta, lui, c'est quelqu'un qui a déjà bossé avec Fabien Nury, notamment pour Le Maître du Benson Gate. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série.
Si,
Comment tu dis?
c'est
Le
le truc
Maître
qui a
du
jamais,
Benson
la
Gate.
série qui a jamais été
Oui.
finie.
Qui a jamais été fini, mais c'est dommage.
Ouais, après sinon il y a le maître de balle, le maître de balan de trait de Stevenson en roman qui est,
Qui est bien? Qui est
ouais,
mieux?
oui,
Bon.
bah oui.
Ouais, mais moi, quand il n'y a pas d'image, tu sais, il me
C'était
manque un
fait en
truc.
BD en deux tomes. Enfin bref, c'est pas le sujet, tu nous
C'est pas le
parles du Vendée
sujet.
Globe.
Le Vendée Globe, son surnom, c'est l'Everest des mers. C'est comme ça qu'on le qualifie. Et en 2016, Chenet et Garetta ont publié un premier tome des histoires du Vendée Globe. Là, alors c'est une forme de réédition, mais de réédition augmentée de plus de 30 pages. Et au cours de cet album, c'est sous forme de reportage, un peu témoignage. Ils sont allés à la rencontre d'une dizaine de marins, même un peu plus que ça. Alors il y a Michel Desjoyeaux, François Gabart, Samantha Davis, Armelle Lecléache. Enfin, c'est des
Pour
noms
ceux à qui ça
qui.
parle pas,
Voilà.
c'est des stars, c'est Nadal, Federer, de la voile,
Ah
quoi.
bah, du Michel Desjoyeaux, François Gabart, Armelle
Oui.
Lecléache, c'est déjà des vainqueurs du
Tout à
Vendée
fait.
Globe. C'est une épreuve assez
Tu peux nous rappeler
récente.
en quoi consiste le Vendée Globe, comme
Alors, le
course?
Vendée Globe, c'est une course donc de voile dont le départ se fait au Sable d'Olonne. Les navigateurs descendent les océans Atlantiques, donc l'Atlantique Nord, Atlantique Sud. Ils vont vraiment
Cap de
au
Bonne
pôle,
Espérance.
au pôle Arctique. Ils contournent ce pôle et ils remontent le long du donc en passant le Cap Horn et ils remontent
Par le
les
Pacifique.
Atlantiques.
Ah non, il remonte.
Les
En fait,
Atlantiques, ouais.
non, mais en fait, il passe pas. Mais il passe tellement au sud, au ras des pôles, du pôle sud, que tu considères qu'ils entrent pas réellement dans le Pacifique finalement.
Non, ouais, il le frôle.
Ok,
C'est
et c'est
pas.
une course en solitaire?
C'est une course en solitaire d'une part, et surtout sans assistance. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas le droit d'avoir d'équipiers à bord, premièrement, puisqu'ils sont en solitaire, ni sur les abords. Ils n'ont pas le droit d'avoir de conseils de navigation. Tout ce qui va aider la performance est strictement interdit. S'ils ont une panne à bord électronique, ils peuvent avoir des conseils sur des notices voilà, pour réparer la panne en question, mais absolument pas de conseils qui augmenteraient la performance. Alors en 2020, sur les 30 pages en plus, les auteurs ont rencontré d'autres navigateurs, Julien Bayou, Alex Thomas, pas Julien Bayou, Jérémy, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a des nouveaux venus comme Clarisse Kremer, ça c'est son premier Vendée Globe cette année, ou bien Charlie Dalin, alors moi c'est mon bidet hein, pour cette année. À l'heure où est diffusée cette émission, le Vendée Globe a commencé depuis 24 heures normalement. J'ai trouvé ça extrêmement immersif. C'est une série d'anecdotes des marins sur la façon dont ils vivent leur Vendée Globe, c'est rassemblé par thématique. On y aborde énormément de choses, évidemment les éléments qui se déchaînent. Ça philosophe un peu sur, alors façon loup de mer, hein, sur la solitude, sur le rapport au temps, sur la force physique et mentale. Il y a aussi beaucoup d'analyses sur la complexité de cette course, parce que le Vendée Globe, c'est vraiment la fusion parfaite entre l'aventure et la compétition. Et l'album, il traduit
C'est un truc
vraiment
de fou.
extrêmement bien cette dualité. Sur ce parcours-là, c'est des sportifs de haut niveau, hein, clairement. Ils sont partis pour les plus rapides 75 jours, 74 jours et des brouettes, je crois le record. Mais en majorité, ils vont partir pour 90 à 100 jours environ. Sachant que tu as tout un panel
Dans des conditions dantesques.
dans des conditions dantesques. Alors, dantesques dans les deux sens, c'est-à-dire dantesques par des tempêtes phénoménales, mais aussi dantesques par l'absence totale de vent qui peut faire durer la course, donc plus de 100 jours, voire plus de 110 jours, qui mentalement doit être, et physiquement doit être, vraiment, ça c'est un marathon de la mer, quoi.
Et les témoignages montrent quelque part que malgré le fait que ce sont des professionnels, des aguerris à ce genre de choses, ils sont totalement démunis face aux surprises et aux aléas de la mer.
C'est ça. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent de casse, et notamment une des choses qu'on demande aux marins du Vendée Globe, c'est quoi ta plus belle casse? Pour dire c'est quoi ton plus beau souvenir? Et il y a des navigateurs qui disent que c'est assez dur d'isoler des moments parce que c'est tellement long comme course que les moments sont pas du tout isolés et c'est plutôt leur accumulation qui crée la richesse de l'épreuve, la richesse de l'expérience. Et ils le disent aussi que tous les marins qui s'engagent sur le Vendée Globe, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ils vont être en mode dégradé avec leur machine. Il y a des choses qui vont plus fonctionner. C'est vraiment une certitude qu'ils ont au départ. Donc, ils doivent être aventuriers pour aussi digérer ce fait qui va forcément arriver. Et ils doivent être aussi compétiteurs, mais c'est une drôle de forme de compétition. Il y a tout un passage notamment qui explique la notion des trajectoires par rapport à la météo. Donc ils doivent aller évidemment d'un point A à un point B. Par contre, le but dans cette course, c'est pas du tout d'aller le plus vite possible, c'est d'être premier. Et c'est ça la grande différence. Par exemple, pour aller d'un point jusqu'au point B, si ta route à toi qui est premier, le plus rapide, c'est la route du nord. Par contre, tes concurrents qui sont derrière, eux, c'est la route du sud. Si toi, tu t'es planté sur ta météo, et ben, tu es tout seul à subir les conséquences de cette erreur. Par contre, si tu prends, tu n'augmentes pas ton avance, tu ne prends pas la route la plus rapide, mais tu suis celle de tes concurrents, s'il y a un pépin météo, tout le monde sera dans la même galère, et donc tu conserveras ton avance. C'est aussi énormément de stratégie de ce point de vue-là.
Il y a un autre aspect, c'est que quand ils t'éloignent pas trop des autres, quand tu as un gros pépin, ils savent qu'ils peuvent souvent compter les uns sur les autres. Ils sont compétiteurs, mais la vie de l'autre est quand même souvent mise en avant.
C'est vraiment une famille.
L'entraide.
C'est voilà, c'est une équipe. Les concurrents sont des concurrents, mais sont surtout des compagnons de galère.
Oui.
Oh, c'est beau ce que tu dis.
Ils sont très souvent isolés, bah, parce que c'est ce qu'on ressent vraiment dans cet album. Ils disent aussi.
Même pour l'avoir lu. Pour l'avoir lu, je suis d'accord avec Thibaut.
Les anecdotes peuvent être comprises que par des gens qui ont fait le Vendée Globe. Alors. C'est faux parce que.
Ouais, bah du coup, tu comprends rien, toi.
Si, si, les non, auteurs, bah, j'ai déjà fait le Vendée dans mes rêves. Mais. Et puis, je fais le. Moi, alors, tu vois, moi, je fais le Vendée Globe virtuel. Ça s'appelle.
Tu le fais
à la Regatta.
Ouais, tu le fais, ça.
Ouais, l'année dernière, j'ai dû arriver. Enfin, il y a 4 ans, j'ai dû arriver 49 millième et des brouettes.
Bravo.
Sur, je sais plus, 500 000 concurrents, donc c'est pas mal.
Très bien.
Et alors la différence aussi qu'il y a, c'était un reproche qui avait été fait au premier tome, à la première édition, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire du Vendée Globe qui était proposée. Et là, il y a toute une partie vraiment de documentation à la fin de l'album, avec l'histoire du Vendée Globe depuis sa première édition en 1989. C'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Il y a aussi tous les portraits des skippers et skippeuses qui sont engagés sur le Vendée Globe 2020. Et puis il y a aussi l'historique de tous les bateaux. Alors à la fois les bateaux neufs, ça c'est on met sur les bateaux neufs les concurrents qui prétendent à la victoire, évidemment. Il y a aussi des bateaux qui ont parfois 15, 16, 17 ans, 18 ans. Qui ont été rachetés par des rookies. Et donc, ces bateaux-là ont évidemment fait énormément de courses et on a toute l'historique de ces courses. C'est un très, très bel album que je conseille farouchement, autant pour les néophytes que pour les confirmés, surtout pour ceux qui ont une appétence pour la mer. Ça traduit énormément bien cette image de la mer et des marins et des courses au large. Et ça peut être un chouette cadeau pour Noël. Click and collect chez votre libraire indépendant, ce serait une bonne idée.
Pour peu que vous ayez quelqu'un effectivement qui s'y connaît un peu en voile ou qui en a déjà fait un petit peu, qui est sensible à ça, je suis du même avis que Thibaut, je vais foncer les yeux fermés.
Ok, vous me rappelez le titre ?
Histoire au pluriel du Vendée Globe chez Dargo de Garetta et Chenet.
Ok, on fait la dernière pause musicale, The Strokes, The End Has No End. Dernière partie des Gardiens de la BD. Franck, il te reste peu de temps pour évoquer une série que tu as appréciée, que tu avais envie d'arrêter, que tu as repris, c'est ça?
Merci. Ouais, c'est ça l'idée. Fred, il y a quelques semaines, nous a reproché de ne pas parler de grandes séries plutôt franco-belges. Bah, là, on est totalement là-dedans. C'est la série Clos, chez Le Lombard, qui est scénarisée par Rosanna, mais dessinée par Joël Jurion. Et c'est le 12e tome qui est sorti il y a quelques semaines. Effectivement, j'avais beaucoup aimé cette série au démarrage et je m'étais finalement lassé autour du tome 6 ou 7, je ne sais plus exactement, parce que je trouvais que ça tournait mal. Et en fait, ça correspondait à un tournant dans l'histoire, et histoire qu'ils ont conclue, je crois, en 9 tomes. Donc il y avait deux grandes parties dans cette intro. Pour rappel, c'est une série qui est donc orientée jeunesse, qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 10 ans, un jeune garçon pardon, qui a deux particularités. La première, c'est qu'il le sait pas au démarrage, mais sa famille, ce sont des mafieux aux États-Unis, et il est le fils du parrain. Et lui va découvrir qu'il a un pouvoir qui est de se transformer en tigre, mais en tigre humanisé, avec toute une force, toute une capacité physique augmentée. Et le principe de l'histoire, c'est qu'on va découvrir que ce sont ce qu'ils appellent des dizi, des sortes de divinités qui peuvent habiter dans des êtres humains. Et ça marche par binôme. Et que quand on tue
ça marche par binôme, c'est un homme, une divinité ou...
Alors, c'est deux hommes ou deux êtres humains, une divinité. Okay. Et l'être humain décide de se transformer en cette divinité, l'autre ne peut pas l'utiliser en même temps. Mais c'est donc il y a un binôme d'êtres humains pour une divinité. Il y a une douzaine de divinités présentées au départ. La deuxième partie sur laquelle j'ai eu du mal, on découvre qu'il y a des divinités plus anciennes encore, donc ils rajoutent des nouveaux personnages. Et c'était ça le problème que j'avais avec cette série, c'est que c'était une multiplication de personnages et on a quelquefois du mal à suivre. Et finalement, Zana m'a fait du tri là-dedans, a réussi à clore sa première grande première arc narratif au bout de 9 tomes. Et là, il part maintenant sur toute autre chose. Et ce tome 12 s'appelle Phénix. Et pour moi, c'est vraiment le réveil.
La renaissance.
Ouais, la renaissance de cette série. Même si là, le tome 10 et 11 étaient très introductifs, remettaient tous les personnages en scène. En gros, tous les pouvoirs avaient disparu. Et donc tous ceux qui avaient été drogués finalement par la présence de cette divinité en eux, ont perdu ça, on sont obligés de se reconstruire, et les divinités vont réapparaître au travers du phénix, et qui a un lien avec l'histoire des personnages auparavant. Je ne peux pas trop en dire non plus. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est le dessin de Joël Jurion, qui est tout en volume mais qui est jeunesse en même temps. La mise en couleur est une réussite également. Et Ozanam, là, me fait reprendre plaisir à lire son histoire.
Ah, je crois que voilà, j'essaie de faire vite.
Ok. Non.
Merci.
Plutôt Franck. Jeunesse, mais un adulte peut prendre plaisir parce que c'est quand même très complexe. Il avance très vite dans son histoire.
Ok.
Donc Le Lombard, Clos, Ozanam et Jurion.
Ok. Merci Franck. Merci Thibaut. Si j'en crois mon compteur, l'heure est terminée. Donc on se retrouve.
Ça fut un plaisir de vous retrouver, même si on n'était pas ensemble.
Ouais. Merci à tous les deux les gars.
On se retrouve la semaine prochaine et en attendant.
Avec plaisir.
À tout à l'heure dans vos rêves.